Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerrelin qui revient fraîchement de ses vacances. Et oui, ça fait du bien, gros merci de votre indulgence tout le monde, hein? On n'a pas eu de podcast la semaine passée, mais je vous ai mis en primeur mon spectacle Jerrelin plus pour longtemps que j'ai enregistré en 2019 au Club Soda, fait qu'il est maintenant disponible pour tout le monde. Vous pouvez aller maintenant l'écouter et un énorme merci pour tous les merveilleux commentaires. Ça a vraiment été apprécié. Tous les beaux compliments. C'est très, très positif. Je suis très content de la réception du show. Fait qu'un gros merci à tout le monde. Puis c'est ça, Chris, en même pas 24 heures, 10 000 vues YouTube. Hein, pas des vues Facebook, là. Hein, les vues Facebook, tout le temps de la merde. Mais des vues YouTube, ça, c'est les vrais. Fait qu'un gros merci à tout le monde qui l'ont écouté, puis pour vos beaux mots, ça m'a super touché. Bon, bref, fait qui qu'on soit cette semaine, c'est nul autre que Alain McKenna, qui est un journaliste en sciences et technologies et aussi automobile. Mais durant le podcast, on a beaucoup parlé de tout ce qui est ça, tout ce qui est science, tout ce qui est technologie, intelligence artificielle. On a parlé de Elon Musk aussi. Fait que bref, ça a vraiment été un super beau podcast. Et moi, j'aime ça, parler de technologie, de choses qui me font un peu beaucoup peur. Mais au moins, on en apprend un peu là-dessus. Hein? Fait qu'un gros merci à Alain McKenna. Puis je vous incite tout le monde à aller écouter son podcast Une tasse de tech si vous l'avez bien aimé. Ou sinon, c'est ça, il est journaliste au devoir en sciences et technologies. Fait que vous irez checker ça. Un gros merci à Alain, c'est super apprécié. Ou sinon, j'aimerais ça aussi dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine, hein? Fait qu'encore une fois, Alex Devois, je vous remercie. Faux le graveur laser. Marc-Antoine Laflamme, Mickaël Pomerleau, Monsieur Camaro, Méo pour son gros pieu Vistec. Puis Steve Baudouin, alias Mofo. Gros merci au team WhatsApp. Si ça vous intéresse de le devenir, c'est en devenant membre au patreon.com/WhatsApp podcast. Tous ceux qui sont membres à 25$ et plus, je veux vous nommer comme que je viens de le faire. Ou sinon, être team WhatsApp, il y a toutes sortes de forfaits. Il y en a à 3$, d'autres à 4$. Et ça vous permet de voir tous les podcasts qui sont d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique à une fois par semaine. Et fait que, bref, c'est ça. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Fait qu'un gros merci à tous mes membres Patreon. Votre support est super apprécié. Et si vous voulez m'encourager, mais vous pouvez pas le faire de façon financière, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais être super content pour vrai. Cliquez sur la cloche pour être sûr de rien manquer. Laissez un petit thumbs up si vous avez aimé le podcast. Puis vous l'avez écouté jusqu'à la fin. Vous avez aimé ça. Écrivez technologie dans les commentaires. Comme ça, ça va m'aider à vaincre l'algorithme YouTube. Ça va être crissement apprécié. Ou sinon, un like sur ma page Instagram, Jerrelin, tout le temps apprécié. Ou sinon, ma page Facebook, Jerrelin. Ça va être super apprécié. Fait qu'un gros merci encore une fois à Alain McKenna. Merci pour vos vues et vos commentaires pour mon nouveau show que j'ai mis sur Internet. Ou sinon, c'est pas mal ça. Fait que merci beaucoup tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Et peace out! Fait que, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir Alain McKenna, journaliste en sciences et en technologie. Gros merci d'avoir accepté mon invitation.
Ben, ça fait plaisir. Écoute, c'est vraiment, ça fait plaisir de te rencontrer aussi. Ça n'a jamais eu. Ouais. Ça, c'est gagné.
Une première.
Exactement.
il y a tellement de sujets intéressants là-dedans là, parce que ça évolue tellement fucking vite. Moi, il me semble, on dirait que j'ai cligné des yeux, puis là, c'est rendu qu'il parle d'avoir une identité numérique.
Ah oui.
Tu sais, ça craint. Moi, en tout cas, en plus, moi, ça me fout la chienne, toutes ces affaires-là. Il n'y a pas juste l'avion qui me fait peur. Il y a aussi toute la petite technologie.
Je peux dire qu'il y a moins de risques avec l'avion en ce moment. Avec ce qui est numérique, là, ouais.
Là, en ce moment, un des sujets qu'on parle et qu'on entend de plus en plus, c'est l'intelligence artificielle, oui. L'AI.
Oui.
Puis pour ceux maintenant qui sont beginners, qui ne connaissent pas trop ça, tu veux-tu expliquer ça ressemble à quoi, l'intelligence artificielle?
Les mots, en fait, intelligence artificielle, c'est vraiment des mots valises, ça veut dire un paquet d'affaires.
Ouais.
C'est comme dire du numérique, en fait. Ça peut être 10 affaires séparées. T'sais. C'est pas toujours même les mêmes affaires. Ça peut être contradictoire dans la façon dont on le présente. Ce qui est très hot en ce moment, c'est ce qu'ils appellent des intelligences artificielles génératives. Donc, c'est des applications web, surtout, mais tu sais, qui génèrent du contenu, qui créent soit des images ou du texte qui ont du sens. Genre, qui ont l'air fait comme si c'était un humain qui le faisait.
OK, comme ChatGPT.
ChatGPT, c'est ça. C'est une intelligence artificielle ou IA générative. Là, puis ça, c'est un anglicisme parce que c'est en anglais. C'est Generative AI qu'on a traduit.
Okay.
Mais ça, c'est, essentiellement, c'est des langages de modèles. Donc, c'est c'est du code, c'est de la programmation. C'est comme un programme, dans le fond, qui se promène sur Internet, qui se promène dans une base de données. Puis dans le cas de ChatGPT, c'était comme toute l'Internet jusqu'en septembre 2021, qui accumule tout ça, qui comprend comment on s'exprime à l'écrit, si tu veux, puis qui ensuite régurgite à peu près tout ce qu'elle a appris, d'une certaine façon. Donc on lui demande des trucs, puis basé sur ce qu'elle a accumulé partout dans ses recherches, produit une réponse. Mais produit une réponse d'une façon qui semble comme si moi je l'écrivais ou toi tu l'écrivais, puis on répondait à quelqu'un de façon tout à fait naturelle.
OK.
Ça, c'est la partie texte. La partie image, un truc très connu, c'est Stable Diffusion, qui est en lien. Tu le demandes, mettons, fais-moi une image d'un chat dans l'espace en train de, je sais pas, cueillir des fleurs, puis le pouf, l'image apparaît. À la façon d'Andy Warhol, puis là, ça le fait comme ça.
Ah, OK.
Ça, c'est différent, mais c'est le même principe, mais c'est sûr que ça s'exprime différemment parce que c'est de l'image, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que ça récupère beaucoup d'images sur Internet, un peu partout, puis ça crée une expertise, si tu veux, en création d'images qui permet de créer n'importe quoi comme visuel.
Fait que ça crée pas, dans le fond, de quoi d'original, là, ça crée, c'est comme une influence ou à partir de déjà de quoi de créer, qui est mélangé, puis qui est...
Écoute, c'est une conversation à avoir, est-ce que c'est original, tu sais, parce que là, il dit, bon, ben, tu sais, comme quelqu'un qui dit, anyway, tout ce que ChatGPT fait, c'est du plagiat, parce que c'est toutes des choses qu'elle a appris ailleurs, mais essentiellement, c'est ce qu'on fait nous autres aussi, tu sais. On n'invente rien, là. On crée basé sur l'expérience qu'on a, puis on s'inspire de, tu sais, les grands artistes, les musiciens, n'importe qui va s'inspirer de quelqu'un d'autre, tu sais.
Ouais.
Fait que ouais, ça soulève la question de savoir. Mais c'est sûr que dans la génération d'images, tu sais, il y a eu des. On a vu sur YouTube des vidéos partagées qui sont plus de la musique, mais tu sais, genre une chanson des Beatles telle qu'interprétée par les Beach Boys, mettons, ou l'inverse, ou en tout cas, peu importe, où là, t'empruntes vraiment le son, tu sais, de gens connus. Ça soulève des questions de droit d'auteur, ça, il n'y a aucun doute. Mais il y a certainement une zone grise là où on se demande c'est-tu de la création ou pas. Je pense qu'il faut pousser la question plus loin et savoir est-ce que nous aussi, quand on, tu sais, les artistes, les gens qui créent des choses, je ne suis pas un artiste, là, mais les gens qui le sont, est-ce que aussi quand ils créent des choses, c'est à quel point c'est de la copie ou pas, de quoi on s'inspire et comment on crée.
Où c'est qu'on tranche entre c'est inspiré et c'est créé à partir de.
Dans le langage, quand on se parle ou dans l'image. C'est peut-être flou, mais tu sais, parce que ces outils-là peuvent aussi créer des programmes, des logiciels, des applications web, n'importe quoi, basés sur du code qu'elles ont appris ailleurs. Et ça, souvent, c'est du code qui a été créé de façon propriétaire, c'est-à-dire que ça appartient à soit une compagnie ou à un développeur qui existe déjà. Puis ils reprennent des bouts, puis ça soulève des questions, mais ça, c'est identifiable comme élément de contenu, si tu veux, parce que sais que le bout de code, là, ben, c'est moi qui l'ai fait, fait que ça, elle l'a copié, puis tu sais.
Ben, c'est ça.
Mais encore là, c'est pas impossible que quelqu'un d'autre fasse la même chose. Puis que cette personne-là soit un humain, là.
Ouais.
Et que ça soulève le même genre de questions.
Fait que c'est ça un peu le problème avec les ChatGPT, puis...
Ben, c'est nouveau, fait qu'il n'y a pas de précédent. Fait que ce qu'ils font avec ces outils-là... Tu sais, il y a eu du monde, là, récemment, qui disait « Ah, c'est pire qu'une bombe nucléaire, ce qui est possible de faire. »
C'est
la fin du monde s'en vient.
Elon Musk, c'est ça qu'il a dit.
Il y a une couple qui ont bien peur, mais évidemment, ça reste un outil. C'est ce que les gens en font qui va être le problème.
Ouais.
Et puis c'est un peu
comme
ça
le nucléaire.
Ben, tu sais, il y a des centrales. Tu sais, la plupart des pays en Europe ont des centrales nucléaires parce que c'est ce qui permet de générer de l'électricité.
Ouais.
Mais il y en a une couple de zozos qui ont créé des bombes, là. Fait que, c'est un peu la même chose.
Ouais, c'est ça, exact.
C'est un outil.
Est-ce qu'on doit avoir peur de ça, tu sais? Est-ce que... Tu sais, c'est legit d'en avoir peur, tu sais? Parce que, il me semble... On peut en perdre le contrôle assez facilement.
Ben, c'est sûr qu'il faut pas. Il faut toujours garder un sens critique. Là. En avoir peur, je sais pas, mais il faut. Tu sais, comme ChatGPT, c'est le fun parce que tu poses des questions puis elle te répond puis ça a plein de bon sens. T'sais. Fait que les gens ont tendance à lui demander des choses qui vont devenir de plus en plus personnelles. Mais à l'autre bout, cette information-là est récupérée, tu sais. Un comptable qui fait passer cet outil-là dans ses résultats financiers ou dans ses affaires fiscales, puis qui dit, tu sais, dis-moi combien je paye d'impôts à la fin de l'année, ben les données qui sont partagées là sont partagées à d'autres personnes.
Mm-hmm.
Fait qu'il faut pas se fier à ça à 100% en disant, il n'y a pas de problème. Il y a effectivement des possibilités que ce qu'on fait avec soit utilisé à l'autre bout de mauvaise façon. Il y a toujours des possibilités exagérées, exactement. Même chose, il ne faut pas nécessairement imaginer que c'est 100% vrai ce que ces outils-là nous produisent, parce qu'ils se basent sur de la récolte, sur des sites web qui ne sont pas toujours identifiés.
Mm-hmm.
Ouais, c'est comme compris.
C'est comme la probabilité que le prochain mot soit.
Exactement.
C'est
vraiment le bon mot, la probabilité, parce que ce sont des outils de probabilistes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent tu poses des questions de thématiques à, mettons, ChatGPT, puis elle n'a pas la bonne réponse. Parce qu'elle ne te répond pas en faisant le calcul, elle te répond basé sur sa connaissance des autres calculs qu'elle a trouvés sur Internet,
mm-hmm.
avec une réponse qui est probablement celle que tu veux.
Mm-hmm.
Mais ça s'applique sur tout le reste aussi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas, elle fait pas le raisonnement, elle fait la probabilité que la réponse qu'elle donne est bonne. Fait que ça, mm-hmm. c'est une petite nuance qui fait qu'il faut pas croire avec les mains ce qui sort de là. À partir de là, il faut voir à quel point c'est utilisé puis intégré dans d'autres choses. Comme de la publicité, la communication, marketing, puis politique ou autre. Justement pour produire du contenu qui pourrait influencer l'opinion des gens.
Mm-hmm.
Ça, c'est un autre genre de conversation aussi.
Ouais, ben j'avais lu aussi, ou je pense que c'était un YouTuber que j'avais entendu, il disait que ça peut être quand même dangereux parce que, tu sais, des chats GPT de ce monde vont prendre de l'information dans des, mettons, on va dire, dans des livres de psychologie ou des affaires de même. Fait que les fraudes vont devenir de plus en plus super complexes, puis très... ce sera plus facile de faire. De catcher que c'est une fraude et de quoi.
Ben, c'est un outil. Tu sais, au Québec, c'est facile parce que, c'est facile, je vais le dire comme ça. Quand on reçoit un email de spam en français au Québec, c'est tout le temps truffé de faute. C'est tout le temps. C'est parce que c'est très rarement des gens d'ici qui font des fraudes comme ça, qui ciblent ici. C'est souvent des campagnes at large, puis c'est souvent mal fait.
Ils vont sur Google,
c'est facile de repérer, tu sais, les spams ou les arnaques de hacking, puis tout ça. Mais là, avec cet outil-là, tu peux écrire nativement dans 45 langues sans aucun effort.
Mm-hmm.
Fait que là, tout d'un coup, tes communications deviennent pas mal plus efficaces. Fait que si tu veux essayer d'arnaquer les gens, ça devient plus pratique. C'est sûr que c'est sûr qu'il y a ce risque-là aussi. Fait que ouais, il faut se méfier de ça, c'est certain. Puis ça va plus loin que ça, parce que là, on parle de ça, mais toute la génération de vidéos, les deepfakes, c'est un peu un spin-off de cette même technologie-là.
C'est ça,
qui permet de faire dire des choses à des gens sur des vidéos qui n'ont jamais dit, en fait,
mm-hmm.
ou qui n'ont jamais même fait. Donc ça, c'est un autre genre de risque aussi où on va déformer les faits ou les événements marquants, là, éventuellement. Là.
Ben oui, parce que là, il y a une intelligence artificielle qui ont essayé de créer ou qui vont créer, ou ce qu'elle va avoir sa propre conscience, puis c'est ça?
Ben ça, c'est la théorie de l'intelligence, ce qu'on appelle en anglais AGI, là, l'intelligence généraliste, intelligence artificielle généraliste. Donc c'est
il va pouvoir s'améliorer soi-même.
Moi, je te dis ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu le fantasme des gens dans ce secteur-là, de dire l'intelligence artificielle qu'on est en train de créer, mettons ChatGPT, tout d'un coup, là, va être capable d'elle-même s'améliorer, donc corriger ses propres limites, tout ça, puis de prendre des décisions, devenir vraiment autonome au niveau de sa réflexion.
Mm-hmm.
Puis là, on voit le step entre. Mettons, il y a un an où ça n'existait pas, puis là, où est-ce qu'on est avec ces outils-là, puis on dit « Wow, c'est une belle progression », tu sais, c'est une progression vraiment en anglais, c'est en hockey stick, là, en bâton de hockey, c'est-à-dire que la courbe est partie.
Ouais, c'est quasiment exponentiel.
Ouais, exactement. Fait qu'il se dit « Ben, la prochaine grosse étape, ça va être ça », tu sais, mais je veux dire, d'imaginer une application comme ça qui décide qu'elle elle-même est capable de s'améliorer, d'apprendre et de devenir vraiment autonome, c'est un gros step là. Puis c'est quelqu'un, c'est comme avoir un mononcle qui sait tout là, tu sais, tu lui demanderais, elle va te dire comment réparer tes tuyaux de plomberie, comment faire l'électricité, comment tu sais faire tes impôts, n'importe quoi, elle va tout savoir là.
Mm-hmm.
Ça va être un ça peut être le fun, ça peut être aussi un méchant problème là. Ça va être le fun de voir comment écoute, moi personnellement, je pense pas que ça va arriver prochainement là. Je pense que c'est un rêve, c'est comme la voiture autonome là, dire que OK, il y a beaucoup de monde qui en développe en ce moment, mais il y en a pas une qui fait la job comme complètement.
Ouais.
Fait que peut-être qu'on n'arrivera pas non plus à cette espèce de super intelligence artificielle-là, mais il y a beaucoup de monde qui travaille.
La voiture autonome serait malade pour l'alcool au volant, ça.
Ben, je veux dire ceci. La voiture autonome, une fois que tu as la voiture autonome, tu sais, le niveau 5, c'est une voiture sans volant. Là. Fait que c'est juste comme un gros pod sur quatre roues qui se prend.
Ouais. Il n'y a pas Peugeot qui essaye de... qui vont...
Ben, il y a Google qui avait sa voiture, sa petite voiture Google Car. Toutes les compagnies l'essayent. Puis la théorie, c'était une crainte qu'il y avait, puis ça m'a fait rire. C'était un article il y a une couple d'années où il disait « Le jour où cette voiture-là existe, les cinémas érotiques vont fermer, la porno va éclater parce que tu vas pouvoir être dans ton char, les vitres teintées, puis faire ce que tu veux, dormir, tu sais. Puis ça va tout changer, la façon dont on fait bien des choses, incluant, tu sais, les relations sexuelles. Tu vas pouvoir être dans ton char, puis tu n'as rien à faire. Fait que tu vas, tu n'as plus ta blonde, tu vas les installer. Fait que t'es comme, waouh, tout d'un coup, tu dis, ça éclate. Finalement, on n'est pas encore, on n'est même pas proche d'être là. C'est votre autonome, ils sont pas encore rendus là, mais tu dis, ça va changer bien des affaires. Hein, ça
c'est
va
clair que c'est la première affaire que les humains vont faire. C'est comme, une voiture qui se conduit toute seule, qu'est-ce qu'on fait? On fourre dedans.
Ben, tu sais pourquoi Internet a fonctionné? C'est parce que l'industrie porno a sauté dessus. Fait que ça, il y a beaucoup de clin d'œil à ça. Mais
puis
aussi,
le VHS versus le bêta. Là.
Exactement. Fait que si la voiture autonome voit le jour, l'industrie porno saute dessus.
Mais moi, je me suis il y avait eu une genre de controverse avec quand ils ont essayé de faire. Ben, il y avait deux intelligences artificielles qui ont dit de se communiquer ensemble puis que ça soit la plus facile possible.
OK.
Puis après ça, ils ont fini par communiquer ensemble puis ils enlevaient de plus en plus de mots. Fait que là, ils ont carrément, les scientifiques, ils ont carrément perdu le contrôle. Parce que là, c'était rendu qu'ils se parlaient même pas en mots, mais en signes ou en...
Ah, j'ai lu quelque chose là-dessus,
en enfant de même. Puis là, ils ont eu peur, fait qu'ils ont débranché les deux, tu sais.
Je pense que la leçon dans tout ça, c'est que si ça arrive à ce point-là, on va juste pouvoir les débrancher.
Ouais. Ben, peut-être qu'il va être déjà trop tard à ce moment.
Ben, la crainte, tu sais, l'affaire que je disais tantôt, les chercheurs qui craignent, là, ben, tu disais Musk, il y a le gars à Montréal, Yoshua Benjou. Là, qui était à l'Université de Montréal, qui est un des grands noms de ça aussi.
Puis il y a celui de Toronto aussi.
Ouais, le gars qui est anciennement chez Google, Geoffrey Hinton.
Ouais, Hinton, ça.
Eux, ce qu'ils craignent, c'est ça, c'est que l'intelligence artificielle ou qu'une des instances d'intelligence artificielle disons, qui existe en ce moment trouve le moyen de sortir de ses limites, donc de sortir de son ordinateur ou peu importe où elle réside, pour vivre ailleurs, pour que si on la débranche, elle est encore vivante, si on veut, ailleurs, opérationnelle, disons. Puis c'est ça qui craigne, c'est qu'il y a une espèce de bébite qui sauve comme ça, puis qui devient entièrement autonome, puis qui, à partir de là, décide de faire plein d'affaires qu'on peut plus contrôler.
Qui, dans le fond, elle serait consciente, puis elle serait capable d'être totalement autonome. Puis...
Ben, on a créé, tu sais, la base de ces applications-là, c'est l'apprentissage machine, le terme, c'est ça, c'est qu'ils accumulent, puis ils apprennent, ils analysent beaucoup, puis ils tirent des conclusions de ce qui accumulent comme information. Fait qu'on apprend, tu sais, on a bâti des machines à apprendre, fait qu'ils vont tout le temps apprendre. Fait qu'à un moment donné, ils vont apprendre plus que nous.
Ben ouais.
Puis c'est là où on aura une conversation pas mal plus...
Puis plus rapidement que nous autres, là, tu sais.
Ben oui, parce que la quantité de données qu'ils ingèrent, c'est fou, là. C'est des... Je pense qu'il n'y a même pas de mots pour dire combien de mégaoctets qu'ils accumulent chaque jour, là.
Puis c'est des machines.
Oui, c'est des grosses machines, c'est des grosses banques de serveurs, puis ça attire du jus, fait que... En tout cas, à un moment donné, ça va peut-être aussi complètement éclater, parce qu'il n'y aura juste plus assez de serveurs ou quoi que ce soit pour les supporter non plus, là.
OK. Ah ouais, c'est vrai, ça peut être un autre de leurs problèmes. Mais ça, il y avait les chercheurs, c'est quoi? Ils ont signé une lettre? Il y en a qui ont signé une lettre, mais j'avais vu ça dans
tes
articles.
Il y a eu deux lettres. Ouais. Il y en a une très longue, la première, je pense que c'était au mois de mars ou avril, là, qui a été publiée, où là, ils expliquaient que ça prenait un cadre
plus législatif
ou quelque chose pour... Ou même pas le législatif, mais directement que les compagnies qui font de la recherche et développement arrête de la R&D spécifiquement sur ces systèmes-là d'IA générative, si tu veux. Ça n'a rien donné, évidemment. Parce qu'un des signataires, c'est le gars qui s'occupait d'OpenAI, qui est le ChatGPT, qui est l'un des plus
Altman,
gros. Ouais, exactement.
Ouais.
Puis l'autre, ça fait pas tellement longtemps. C'était juste une phrase, en fait. C'était juste comme 22 mots. C'est pas vraiment une lettre tellement qu'un tweet, là, mais c'est peut-être pour ça que Musk l'a signé, parce que c'était assez court.
Ouais.
Mais c'était un peu... Mais tu sais, c'est comme des communications chocs, là. Il n'y a pas de solution. C'est juste dire, on a un problème, il faudrait comme réfléchir à une solution. Puis évidemment, après ça, d'autres spécialistes ont répondu un peu, ont réagi, se sont opposés à ça en disant, ben, peut-être qu'il faudrait, tu sais, pas être aussi alarmiste. Parce que même s'il y a un problème, peut-être que poussé vers une espèce de panique, c'est peut-être pas la solution non plus.
Parce que c'est ça, Sam Altman, tu disais ça dans ton article, c'est que lui, il a un bunker.
Ouais, ben, il y avait un profil de lui dans le New Yorker, là, il y a pas tellement longtemps, où il expliquait que lui, il a tout ce qu'il faut pour survivre.
Parce qu'il fait
partie des millionnaires, multimillionnaires survivalistes, là, c'est une grosse tendance, entre autres en Californie, puis un peu partout dans le monde, là. Il y a son bunker, il y a de la bouffe, il y a des guns, il y a tout ce qu'il faut aussi. Comme... Ouais. La fin du monde arrive, lui, il est prêt.
T'sais. Des antibiotiques.
C'est... Ouais, c'est ça. Puis fait que tu te dis, bon, ben, coudonc. C'est un style de vie particulier.
Ah, ouais.
Évidemment, on voudrait tous être multimillionnaires. On pourrait faire des niaiseries comme ça aussi.
Parce que lui, c'est ça. Lui, sa grosse crainte, c'est que l'humanité, elle se fasse exterminer soit par une guerre nucléaire, soit par un virus pandémique. Ou une intelligence artificielle qui.
Ouais, ben ils sont. C'est une théorie de pensée, le long-termisme, où. En fait, c'est ce qui est. La façon de vivre dans ce concept-là, c'est que tu privilégies la survie des générations futures sur la tienne, sur la nôtre actuellement. Donc, eux, ils se préparent pour catastrophe maintenant pour s'assurer que dans 5 générations, il y a encore des humains, tu sais. Fait que c'est comme une vision assez pessimiste du court terme, disons ça comme ça. Puis clairement, ils ont les moyens de se prémunir de ce qu'ils craignent qui pourrait arriver. Donc, ils font ce qu'ils font. Dans son cas, lui, Sam Altman, c'est assez spécial parce que là, il crée exactement le bébite qui dit qu'il pourrait éliminer
c'est ça,
les humains. Donc, clairement, c'est un peu bizarre ce qu'il fait.
Il n'y a pas une forme d'hypocrisie là-dedans?
Il y a des questions à poser, c'est sûr. Parce que quand tu lis ce qu'il... Ou en tout cas, quand tu l'écoutes ou tu lis ce qu'il dit dans des entrevues, des choses comme ça, il fait ce qu'il fait là, puis on dirait qu'il ne sait pas pourquoi il le fait. OpenAI, ça perd des centaines de millions de dollars, puis il sait pas encore. Récemment, il a dit, je sais pas comment je vais rentabiliser ça, je sais pas encore c'est quoi le modèle, tout ça. Fait que c'est un peu bizarre, puis ce qui est doublement bizarre, c'est qu'il y a des gens qui le financent quand même, puis il n'y a pas de modèle d'affaires ou rien, c'est pas encore. Puis là, il commence tranquillement à mettre des abonnements, des choses comme ça. Mais la façon dont tout ça va revirer va être intéressante pour voir justement s'il va finir par faire de l'argent ou si c'est même, on sait même pas si c'est ça son but, parce que ses finances personnelles sont pas liées ou sa fortune personnelle n'est pas liée au succès d'OpenAI parce qu'il y a de l'argent en banque et il est correct. Fait que ouais, ça va être intéressant de voir la suite. Au moins, comment OpenAI va finir par soit faire de l'argent ou peut-être être acheté par quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça.
OK, c'est ça. Ben c'est ça. OpenAI, c'est eux autres qui sont derrière ChatGPT, je pense.
Exact.
Puis ils font pas de cash avec ça.
Ils en font, mais ils en font beaucoup moins que ce qu'ils en dépensent.
Ouais. Parce que les autres, tu sais quoi, ils veulent la réinvestir pour pouvoir faire plus de recherche, plus de développement, plus de...
Ben, j'imagine que, entre autres choses, c'est les serveurs puis tout ça, puis le développement coûte cher, tu sais, pour soutenir la technologie.
Ouais, j'avoue.
Puis, c'est sûr que ChatGPT, puis même DALL-E, qui est leur truc générateur d'images, sont accessibles gratuitement. Donc, ils font pas d'argent, tu sais. Par opposition à ce que ça coûte, c'est vraiment, ça rapporte très peu. Probablement qu'ils espèrent, puis ce serait pas bête, là, mais de créer l'engouement qui fait qu'après ça, ils pourraient créer un modèle d'affaires, puis ça pourrait devenir payant éventuellement.
OK. Un peu comme avec Facebook, là, tu sais, qui est genre dans le fond, qui a tout le temps été gratuit, mais qu'on a fini par être nous, là.
Oui, ben c'est ça. Ben, tu vois, produit, au début, Facebook, c'était pas rentable. Ils sont rentrés en bourse à un moment où c'était en train de pivoter vers une grande profitabilité, puis c'est là qu'ils ont explosé après, parce qu'ils ont trouvé le modèle publicitaire qui est venu avec et tout ça. Mais ça pourrait être effectivement s'inspirer du même modèle.
Là. OK, dans ce sens-là.
Est-ce que ça va, être quoi le modèle? Ça peut être de l'abonnement, de la pub, ça peut être bien des affaires, on ne le sait pas encore.
OK. Ouais, c'est ça. Je me demande aussi, qu'est-ce que tu penses de Elon Musk? T'sais, parce que on dirait qu'il y en a plein qui l'aiment, d'autres plein qui ne l'aiment pas.
Oui.
Il essaye d'être dans le fond, de ne pas avoir à rendre des comptes à personne. C'est un peu ça,
ben, son oui, enfant. Ben effectivement. Il ne veut pas se faire imposer de limites, ça, c'est certain. Il a fait des choses quand même. Tu sais, je veux dire, bon, OK, il était impliqué dans PayPal, donc ça, c'est un truc.
C'est même qu'il a eu sa fortune. Ça a commencé là.
Je pense pas qu'il a... Tu sais, il dit que ses parents étaient pas très riches, mais je pense que ses parents étaient quand même assez à l'aise, là. Les débuts de l'histoire sont peut-être pas super clairs, mais effectivement, il s'est lancé, il a PayPal. Il a vendu un truc avant ça aussi, mais rendu après PayPal, là, il s'est impliqué dans Tesla. Un truc à propos de Musk et de Tesla, c'est que c'est pas lui qui a fondé Tesla. Il est embarqué après. Évidemment, il a aidé à lancer la patente, mais la technologie, c'est une autre personne qui, tu sais, la façon dont les voitures ont été conçues et tout ça.
Okay.
C'est une autre personne qui est restée très modeste, dont on entend très peu parler, qui s'appelle Martin Eberhard, qui lui est dans son coin, il fait ses trucs. Mais quand il est arrivé chez Tesla, ça a effectivement bien marché. Ce qu'il faut savoir pour Tesla, c'est que c'est peut-être le seul nouveau constructeur automobile en Amérique du Nord depuis 40 ans là, qui a réussi à percer et qui n'a pas fait de faillite ou qui n'a pas eu de mise en quoi que ce soit. Donc ça, c'est assez exceptionnel parce que c'est une industrie qui est très conservatrice. Mm-hmm. Il est arrivé avec la technologie électrique, tout ça, auquel personne ne croyait dans l'industrie, qui a quand même renversé bien des affaires. Puis aujourd'hui, si ce n'était pas du succès de Tesla, on ne parlerait pas d'auto électrique bien. sont ben non, on encore pognés à discuter de comment on peut se sortir du pétrole, puis je te fous pas quoi.
C'est lui qui a amené ce compétiteur-là, dans le fond, dans le marché.
Ben, il l'a pas amené comme tel, mais il l'a rendu crédible.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'il n'était pas tout seul à pousser dans ce sens-là, mais il a réussi à cimenter, disons, un certain. Premièrement, la base, c'est que Tesla existe et franchement, a fait de l'argent. Évidemment, des gens vont dire, bon, ils ont aussi réussi à faire de l'argent parce qu'ils vendaient des crédits de carbone aux autres constructeurs en Californie, puis ils ont fait le même, puis ça, c'est une autre conversation. Mais ultimement, ils sont en train de flipper l'industrie au complet vers l'électrique, puis ça, c'est peut-être ultimement une bonne affaire.
Ouais, mais là, on était aussi en train de créer un autre problème, là, tu sais, avec les affaires de lithium, les piles, puis
ça
commence à sortir, hein?
En tout cas, c'est sûr que si tout le monde... La technologie de pile va évoluer aussi. Là, les matériaux vont changer. Fait que les matériaux critiques seront peut-être aussi nécessaires dans 10 ans qu'ils le sont en ce moment. Il y a peut-être trop d'autos sur la route, peu importe le moteur qui est dedans. Là,
c'est ça.
Il y a peut-être moyen de revoir comment on gère notre mobilité. Si on veut atteindre les cibles qu'on s'est fixées en termes de réduction des émissions et tout ça, puis c'est les gouvernements qu'ils ont fixés, basés sur des études du GIEC et tout ça, va falloir changer des habitudes quelque part parce que tout le monde a un char et tout le monde s'en va en ville en même temps dans chacun sa voiture. C'est peut-être un modèle qui est un peu au moins au niveau de la patience des gens qui est pas dedans parce qu'on est tous fâchés, on arrive au bureau parce qu'on a tous été pognés dans le trafic. Mais aussi au niveau plus social, plus large.
Nos infrastructures sont plus capables de le supporter.
Ça veut dire qu'on a créé des systèmes qui peuvent pas grandir éternellement non plus. Fait qu'à un moment donné, il va falloir décider quand est-ce qu'on arrête de toujours en rajouter, en fait. Fait que ça, c'est un problème, mais c'est aussi, c'est aussi un peu le succès de Tesla. Puis Musk a aussi lancé SpaceX, qui, elle, n'est pas en bourse, une compagnie privée. Il est détenteur d'une grosse partie de SpaceX, puis ça vaut des milliards. Fait que ça ajoute à sa fortune, mais c'est une petite révolution dans le monde spatial.
Il y avait tout mis là-dedans.
Il y en avait eu beaucoup.
C'est, si ça plantait, genre rendu à troisième lancement,
il a joué beaucoup, il a risqué beaucoup. Puis il a profité du fait que la NASA aux États-Unis, qui était le gros joueur dans cette industrie-là, a voulu privatiser aussi toute l'exploration spatiale parce qu'ils se sont dit, si on veut que ça devienne soutenable ou que ça continue de croître. D'une certaine façon, il va falloir que l'industrie privée s'insère là-dedans. Puis lui, il est arrivé juste au bon moment pour profiter de ça aussi.
OK.
Puis avec ses fusées, ben, il a réduit le prix, le coût que ça demande pour envoyer des satellites dans l'espace, des choses comme ça. Puis là, on commence à penser à l'exploration spatiale pour aller chercher des minéraux dans des astéroïdes, puis ça fait le même. Donc, vraiment, ça a ouvert une nouvelle porte.
Pour vrai? Sérieusement, genre?
Il y a plein d'affaires. Puis là, évidemment, avec la pandémie, il y a bien des affaires qui ont pris le bord. Mais tu sais, il était question de tourisme spatial, de créer des hôtels dans l'espace, des choses comme ça, tu sais, pour justement explorer, utiliser l'espace comme un endroit où tu peux créer de la business, là. Puis Musk était un peu, évidemment, il poussait un peu dans ce sens-là parce que ça fait de l'affaire de sa compagnie, mais ça a quand même été permis par les innovations qui ont été mises de l'avant par SpaceX. Il a quand même fait 3-4 affaires comme ça. Puis évidemment, comme il est très vocal, il s'exprime, puis il est très polarisant quand il s'exprime, entre autres sur Twitter, ben, il s'est créé une communauté de gens qui croient beaucoup à ce que lui dit ou ce que lui fait. C'est quelqu'un qui est assez politisé, il a des vues politiques assez claires, puis il n'hésite pas à les partager, fait que c'est sûr que ça crée de l'opposition. Il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord, tout ça, fait que ça crée un personnage qui est assez coloré. Et pourtant, quand tu l'écoutes, c'est ça, c'est qu'en même temps, il y a des formations à travers, tu sais, quand un tweet, c'est tellement... ça manque un peu de profondeur.
on se comprend. Là, c'est ça.
Fait que, c'est sûr que si tu l'assois ici et tu jases avec une heure, ça va être probablement quelqu'un de très sympathique. Mais tout résumer ça dans un tweet, peut-être qu'il va être mal compris puis ça va donner quelque chose d'un peu bizarre, mais ça va partir en dérape comme c'est souvent le cas. Là.
Ouais. Parce que lui... Il y a comme genre plein de projets. Là, comme, il y a aussi Starlink. Là, que,
oui, il fait partie de SpaceX, t'as raison.
C'est ça, tu avais parlé dans ton article, justement. Oui. Parce que lui, son but de ça, c'est de... En tout cas, à première vue, c'est de pouvoir rendre l'Internet à des communautés qui ne peuvent pas le recevoir parce qu'elles sont trop éloignées.
Ben, c'est un bel exemple de quand on disait qu'il ne veut pas de limite. C'est que Starlink, ça utilise des satellites qui sont en orbite, qui sont, je pense, 300 km dans les airs, peu importe. Peut-être moins que ça, je ne sais plus. Mais c'est des milliers de satellites. Donc, ils ne sont pas tous dans un seul pays. Ils répondent à aucune frontière. Donc, les ministères ou les départements ou les autorités locales qui s'occupent des télécommunications, comme au Canada, c'est très encadré parce qu'on ne veut pas que des joueurs étrangers viennent s'implanter au Canada dans les télécoms. ben ce gars-là, il peut faire ce qu'il veut parce qu'il n'y a personne qui peut lui dire « Hey, tasse ton satellite, c'est mon territoire, tu sais, ça n'existe pas dans l'espace. »
Ouais, ça t'appartient pas.
Fait que lui, il dit « Moi, je fais un réseau mondial. » Tu sais, on l'a vu quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, là, quand la Russie a commencé à envahir l'Ukraine, il a offert de la bande passante aux Ukrainiens pour qu'ils puissent communiquer, garder le contact. Parce que les Russes, la première chose qu'ils ont essayé de faire, c'est de faire tomber les réseaux. Fait que tu sais, ça devient tout d'un coup, tu fais wow, ce gars-là, il a comme une influence concrète dans des conflits géopolitiques, conflits militaires, tu sais, d'affaires de même.
Ouais, c'est rendu ça, là.
C'est un autre niveau, tu sais. Puis ça appartient à ce gars-là. Fait qu'il y a personne qui a le contrôle là-dessus. Fait que c'est sûr que ça inquiète bien du monde. Ils sont comme wow, c'est un électron libre dans toute cette patente-là. Fait que ouais, ça crée un autre. Pour lui, c'est une autre. C'est un autre vecteur de croissance, tu sais, mais pour bien d'autres mondes, c'est comme « whoops ». Mais ça, en même temps, c'est un peu ça l'Internet aussi. Ça a été créé comme ça à l'époque. C'est un réseau qui échappait au contrôle de tout le monde puis qui ne pouvait jamais tomber. Tu sais, le concept d'avoir des serveurs partout, quand c'était créé par le centre de recherche américain à l'époque, c'était pour dire ben, « s'il y a un centre, s'il y a un point dans le réseau qui tombe, le reste du réseau peut se repatcher quand même. Mm-hmm. » Puis ce qu'il fait là, c'est qu'il reproduit ce modèle-là, mais à une échelle incroyable, à l'échelle mondiale complète, dans l'espace.
Dans l'espace, c'est ça. Puis là, il disait que dans le fond, c'est ça, c'était fait pour le monde qui sont en région éloignée, mais s'ils décident, ils pourraient juste...
Oui, ben c'est comme ça qu'il a convaincu le gouvernement canadien d'arriver au Canada, de dire ben, « je vais connecter les régions dans le nord, entre autres choses, où la bande passante, la haute vitesse n'est pas vraiment existante encore ». Mais, tu sais, ces satellites sont partout. Il n'y a rien qui l'empêche de matin de dire, bon, ben, tu sais, je tourne la switch on, puis je connecte tout le monde, puis tu as un Internet de bonne qualité, là, le débit exact est variable, mais tu as un bon Internet chez vous pour 20$ par mois, puis on pose plus de questions, puis ça s'en va dire chez Starlink, fait que là, tu sais, les fournisseurs, les Bell, Vidéotron, tout ça, ils ont aucun recours contre une compagnie comme ça. Là.
Ouais. Mais en même temps, peut-être qu'ils arrêteraient de nous crosser. En tout cas, j'assume mes propos toute seule.
On le sait que ça coûte cher.
Pour rien, tabarnak,
puis
comparé
ça pourrait
aux
coûter
états.
Pas mal moins cher. Puis souvent, tu sais, s'ils refusent de... Je veux dire, tu parles de Bell, il y a tellement de monde qui déteste Bell, il y a tellement de monde qui déteste Vidéotron, bon, tu vois.
Puis c'est
comme
un peu... Ouais.
C'est comme des équipes de hockey, là. Il y a du monde qui prennent pour un ou pour l'autre. Puis... C'est sûr qu'ultimement, c'est pas une bonne stratégie pour. Ouais. Si un joueur étranger arrive et coupe les prix puis tout, il risque de perdre bien du monde. Ouais.
Moi, j'ai tellement de problèmes avec Vidéotron, là, mais en même temps, je pense que tous les services, c'est de la grosse merde. Puis t'as tout le temps des problèmes avec tous les services. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est toute de la grosse crise de dèche.
Ça coûte cher, c'est ça qui est le problème. Si c'était un prix, si c'était comparable à ce qu'on paye quand on va ailleurs, ça serait déjà pas pire.
Mais moi, c'est parce que je suis quand même un client difficile. Moi, là, je regarde toutes mes factures, puis s'il y a un 5 cents de plus, moi, je vais appeler, puis je vais pas engueuler la personne parce que je veux jamais m'en prendre un commis. Là. Mais tu sais, la façon que j'y parle, je veux que mon message il se rende.
Ben, il faut, puis à la limite, il faudrait que tout le monde le fasse parce que.
Ouais.
D'ailleurs, je pense qu'un des principaux problèmes de Bell, c'est qu'ils ont des problèmes avec leur facturation, ils facturent toujours tout croche.
Ah, oh, sacrament, man.
Fait qu'il y a un moment donné, c'est ça qu'il a. T'sais, respecter les clients, ben, tu sais, facture-les adéquatement au minimum. Là.
Ben oui, tabarnak. Mais, puis là, c'est ça, dans ton article, tu avais parlé du transhumanisme.
Ah
ça,
oui?
Ça, le transhumanisme.
Ah, ça, c'est d'autres choses, ça.
Ouais, tu veux-tu me parler, c'est quoi? Ça a l'air sharp. On dirait un film de science-fiction.
Il tombe un peu là-dedans quand il commence à parler de son. c'est Neuralink, là, la puce qu'il veut mettre dans le cerveau des gens. Il y a un des gars qui a financé Facebook, Peter Thiel, qui est un de ces gens-là qui croit à ça. C'est cette notion qu'on peut dépasser les limites humaines avec la technologie, mais tu sais, vraiment un niveau comme. Péter le genre. Je pense que Peter Thiel, il est comme lui, il croit à la transfusion sanguine pour vivre éternellement, on a fait de même. Et ça, c'est peut-être un peu caricatural, mais ça donne une idée du courant de pensée. C'est de dire qu'on peut faire des choses pour vivre vraiment, vraiment, vraiment vieux avec la technologie ou avec des applications auxquelles on pense pas en ce moment. Cette notion de s'insérer une puce dans le cerveau, c'est peut-être une façon aussi d'aider à diagnostiquer des choses puis à rendre le corps humain plus efficace contre des maladies ou contre le vieillissement ou des affaires de même. Et c'est un peu vers ça que des gens... J'imagine qu'à un moment donné, t'as tellement d'argent que tu sais plus trop quel genre de défi relever, puis que ça, c'est le défi ultime. Là. C'est de combattre la mort. Là. Fait qu'il y a des gens qui sont rendus là.
Ah ouais.
C'est assez épatant.
Tabarnak. J'espère qu'ils vont pas mixer ça avec le Botox, puis...
Ah ben là...
Ça te ramasse comme Madonna avec la face grosse.
C'est mon feeling. Si tu vis 250 ans, tu dois pas avoir une ride ou deux de trop. Il y a peut-être un marché, là, éventuellement.
Ah ouais, c'est ça. Éventuellement, tu vas venir carrément un robot esti.
Ça va être intéressant à voir. C'est sûr que, tu sais, ça, c'est l'autre truc. T'sais, si on arrive à... Évidemment, la vie humaine à chaque... pour chaque génération, on vient un petit peu plus vieux que la génération précédente, d'une certaine façon.
Mm-hmm.
Éventuellement, on va certainement dépasser, tu sais, ça va être banal de vivre 125 ans, je sais pas, là,
t'sais. Ah, puis c'est ça, peut-être, hein.
C'est un autre... Tu sais, déjà, là, en ce moment, nos grands-parents, tu sais, vivent en santé plus vieux que jamais, là. Tu sais, il y a jamais autant de familles avec trois générations de gens qui vivent en même temps, tu sais, mm-hmm. les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ouais. tout ça.
Ah, parfois quatre, c'est
ouais,
ça.
Ben, c'est ça, ouais. exact. Fait que tu te dis, ouais, c'est peut-être, tu sais, c'est peut-être pas le top, là. On va peut-être continuer comme ça encore, tu sais, sur plusieurs années, là.
Mmh. Est-ce qu'ils ont commencé à faire des pratiques ou des recherches ou des, tu sais, ils ont-tu fait des expériences, je veux dire, comme pour essayer d'avancer là-dedans? T'en as-tu entendu parler?
J'ai pas entendu parler de grand-chose. À part Neuralink. Il y a Neuralink qu'on voit, on entend un petit peu parler. Je pense qu'on va en entendre parler beaucoup dans les prochaines années parce que, de mémoire, là, son objectif à Elon Musk, c'est d'avoir quelqu'un qui a une puce dans le cerveau avant la fin de la décennie.
Mm-hmm. Puis il me semble que la FDA l'a approuvé aussi.
Non, ça se peut. Je sais pas. Écoute, je sais pas qu'est-ce qu'il a approuvé ou pas, là, mais mm-hmm. c'est sûr qu'il faut qu'il jette un œil, puis il va probablement se conformer parce qu'il veut. Tu sais, il y a des applications médicales probablement qui sont assez évidentes, là, qui nous échappent. Je suis pas un spécialiste de ces. Rendu là, ça sort beaucoup de mon domaine, mais il y a peut-être des choses qui sont simples qui peuvent aider. Ne serait-ce que pour la motricité, pour des gens qui ont des mobilités réduites ou des choses comme ça. Là,
ouais. Peut-être l'Alzheimer ou des enfants de main.
Ah, peut-être aussi.
Il
ouais.
Y a aussi de quoi qui est sorti récemment, c'est les hosties de lunettes d'Apple.
Oui.
Apple Vision Pro.
Vision Pro. C'est un nom atroce, d'après toi.
J'imagine en anglais, ça doit sonner mieux, le Vision Pro.
Ben, il y avait, il y avait des rumeurs de noms avant, il n'y en avait pas un bon, là, je sais pas.
On dirait un nom d'équipe d'hockey, de deck hockey.
Vision Pro. Ben, je veux dire, parce que, tu sais, il faut que tu passes chez l'optométriste pour faire ajuster les lentilles avant de le porter, le casque, puis ça sonnait comme une chaîne d'optométriste, Vision Pro, ouais. là, genre, tu sais, Gresh,
c'est
vrai, hein? Vision Pro, tu sais, il y a quelque chose,
là. Ouais. Une compagnie de portes et fenêtres.
Ouais, aussi, tu sais, toujours propre, tu peux voir dehors. Ouais, le nom est peut-être pas super, mais le gadget est assez le fun, par exemple.
Puis ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec celle-là? Pourquoi ça a fait tant parler? On dirait que c'est quoi la réalité augmentée? C'est ouais. quoi ça veut dire, ça?
La réalité augmentée, c'est une façon d'ajouter ou de voir dans ton champ de vision. C'est comme, mettons, ici maintenant, là, tu glisses des lunettes de réalité augmentée, puis tu pourras avoir des fenêtres, mettons, une fenêtre YouTube qui pop dans ton champ de vision, ou un truc numérique, en fait, qui s'ajoute au monde physique que tu perçois avec tes yeux. La réalité virtuelle, c'est opaque, tu vois pas le monde autour de toi, c'est juste un environnement numérique 100% immersif. Et ce qu'Apple propose, c'est les deux combinés, c'est-à-dire que tu peux avoir un environnement entièrement virtuel, donc tu vois pas ton environnement, il y a une petite roulette sur le casque que tu tournes, puis là tu tombes en réalité augmentée, c'est-à-dire que tu vois ce qu'il y a autour de toi, tu peux voir les gens ou les murs, ou peu importe. Et là-dessus s'affichent des données numériques. Et c'est ce qu'ils appellent, comme ça combine les deux, de la réalité mixte, parce que ça mixe les deux.
Ok, c'est pour ça. Mais Chris, man, me semble, il est épouvantable, le casque pour la réalité augmentée. Tu sais, c'est... avec une petite lunette.
Probablement que ça s'en va par là. Parce ouais, c'est ça, comme ouais. dire, le premier téléphone cellulaire Motorola qui était gros comme un bottin téléphonique.
Et ouais,
tu mettais ça comme
avec
ça.
Avec l'antenne.
Ben oui, c'est ça. on est rendu avec des affaires grosses comme ça, là, comme un iPhone. Là, fait que tu te dis, ouais. Laisse-leur 20 ans, puis peut-être que c'est ça qu'on va avoir, des lunettes tout à fait ordinaires.
Ou une lentille.
Ah, ben ça sera encore plus spectaculaire. Mm-hmm. Un vrai caractère, ouais.
Ou carrément le style de puce qui est Neuralink dans la
tête. Ah, ben là, c'est ça. Là, tu vois, ça se rejoint.
On en revient.
Clairement, il y a quelque chose quelque part qui va finir qu'on va voir des affaires que...
ouais.
qu'on ne devrait pas voir normalement.
Puis là, c'est ça. Ça a quand même beaucoup fait parler. Parce que là, il parle aussi d'informatique spatiale.
Ouais, ben là, c'est Apple. Ils donnent des noms à tout parce qu'ils veulent pas qu'on utilise les mêmes termes pour leurs trucs qu'on utilise ailleurs. Mais c'est.
OK.
C'est de la réalité mixte. C'est un peu ce que Meta, là, Facebook, essaye de faire avec les casques Quest là, qu'ils ont, qui étaient anciennement des casques Oculus. De dire, ben, t'es dans cet environnement-là. Et tu peux faire comme tu ferais avec un ordinateur. Ça, tu peux ouvrir tes emails, tu peux ouvrir un document Word, puis là, tu peux jumeler un clavier, tout ça, puis tu peux travailler, mais tu sais, sans vraiment avoir l'ordinateur puis le quincaillerie, mais en ayant vraiment juste comme dans l'espace virtuel dans lequel tu te trouves, les fenêtres des applications appropriées pour faire ça. Là.
Puis c'est quoi? Y aurait-tu comme genre un clavier virtuel qui apparaîtrait dans l'écran puis
non, ben, tu tapes de même? Dans le cas d'Apple, c'est un clavier, tu jumelles par Bluetooth, dans le fond, un vrai clavier okay. pour ton ordi, mais au casque.
Physique. Là.
Comme tu le fais, tu peux le faire avec un téléphone aussi, dans le fond. Là. Mm-hmm. C'est le même principe. Fait que tu aurais des périphériques. Mais tu joues dans le virtuel. La même chose avec les jeux vidéo, parce qu'il y a des, les applications du casque vont être les mêmes applications que l'iPad, puis il y a déjà des jeux sur iPad, fait que tu pourrais charger les jeux sur le casque, elles vont popper en avant de toi dans l'espace, puis là tu jumelles un contrôleur Xbox, mettons, puis là tu peux jouer à des jeux vidéo dans l'espace comme ça.
Puis c'est ça, dans le fond, eux autres sont en compétition avec Meta?
Ouais, Meta, qui vend des casques à 10 fois moins cher. Je pense qu'ils ont présenté, la semaine avant, ils ont présenté ce qu'ils appellent le Quest 3, qui est donc la troisième version du casque Quest, qui est leur casque grand public.
Mm-hmm.
Écoute, je pense que c'est 400 ou 500 $ américains. Donc, c'est pas mal moins cher que les 3500 US du casque d'Apple. Mais Apple peut aussi rivaliser avec Microsoft, parce qu'eux aussi ont un casque qui s'appelle le HoloLens, qui lui est axé vraiment à des applications d'entreprise. Ou en formation spécifique, mais très technique, tu sais. Fait que je pense qu'Apple, avec son casque, en parlant d'informatique spatiale, vont cibler le marché des entreprises, mais peut-être pas le même genre de personnes en entreprise que ce que fait Microsoft, mais c'est un peu plus à ce niveau-là, je pense, qu'ils vont concurrencer.
OK, puis Meta, c'est quoi? Ils visent plus le marché du jeu? Ou
ouais, c'est du jeu grand public.
OK. De là, son prix est crissement inférieur?
Ouais, je dirais, puis je résume hyper grossièrement, mais peut-être que Meta puis Sony se chicaneraient un peu plus, puis Apple et Microsoft se chicaneraient un peu plus, parce que Meta est dans le jeu vidéo, puis Sony a un casque avec la PlayStation, le PSVR.
OK.
Puis ça tombe plus dans le même genre de jeu, de marché, si tu veux. Puis c'est peut-être plus le même genre de clientèle aussi. Là.
OK. Puis aussi, il disait qu'il y avait la technologie Optic ID. Là, comme...
Oui, ben là, ça, c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça. Pour,
pour 3500 pièces,
il
faut que...
Il y a des caméras dans le casque qui regardent tes yeux. Tu as deux caméras, pareil. Puis qui analyse un paquet d'affaires, notamment où est-ce que tu regardes, puis tout ça, mais qui va aussi identifier tes yeux, puis qui peut te reconnaître comme, tu sais, comme le lecteur d'empreintes sur les téléphones ou sur les ordinateurs, là, et qui là va pouvoir, à partir de là, certifier dans le fond que c'est toi qui autorise une transaction. Ça peut être télécharger une application, ça peut être n'importe quoi, mais ça peut aussi être payé pour quelque chose. Et là, ben, tu ouvres un marché, parce que là, les développeurs d'applications peuvent se dire, waouh, je vais offrir, tu sais, dans l'application de réalité virtuelle, un objet virtuel ou un abonnement à quelque chose ou n'importe quoi, puis je vais le facturer 4$. Puis là, tous les gens qui l'utilisent, ben, te donnent 4$ à chaque fois. Fait que là, tu fais de l'argent. Fait que là, tu viens de créer un modèle d'affaires. Fait que tu viens de créer quelque chose que les gens vont peut-être vouloir utiliser plus longtemps.
À l'intérieur du casque d'Apple.
Exactement.
Ah, OK. Fait qu'ils ont misé sur ça aussi.
Ben, tu sais, quand tu joues à des jeux vidéo, il y a bien des cas où tu peux acheter des... Le plus banal, c'est les fameux coffres au trésor, là, ou même de l'argent virtuel. Ou dans Fortnite, tu peux acheter un paquet d'affaires, dans le fond.
Mm-hmm.
Fait que c'est un peu le même principe, mais dans la réalité virtuelle. Fait que tu peux jouer, mettons, ça n'arrivera pas parce que c'est Apple et Epic Games, ils se détestent pour mourir, mais mettons que Fortnite arrivait sur Vision Pro, puis là, tu es dans ton casque, puis tu joues dans Fortnite, puis tu as besoin d'argent pour payer des affaires, de l'argent virtuel du jeu, ou une arme, ou je sais pas quoi. Ben, t'es dans le jeu, tu te ramasses dans une boutique virtuelle, tu regardes la patente, tu fais un clin d'œil ou peu importe, la transaction se fait, puis t'es facturé automatiquement.
OK.
Fait que c'est un peu ça la logique. Puis là, tout d'un coup, t'as un modèle d'affaires, parce que les gens peuvent faire de l'argent.
Ouais.
Tu sais, il y a du transactionnel, puis ça, souvent, ben, c'est un élément déterminant pour assurer le succès d'un produit comme celui-là.
Ben, c'est pas le moment d'avoir une poussière dans l'œil. Hein?
Ouais, c'est ça.
C'est pour ça qu'ils te l'ont scellé, tu parles.
C'est la saison des allergies, ça coûte 1000$ juste parce que t'avais pas de.
Le chou en merde, tabarnak, c'est pas ça.
Ça, c'est moins bon.
OK. Puis, tu sais, ces affaires-là. C'est-tu quand même populaire? Y a-tu bien du monde? Y a-tu un gros marché ou c'était en développement?
C'est une excellente question.
Tu sais, moi, si j'ai essayé ça une fois, puis c'était bien correct, là, tu sais.
Genre... À qui je parlais, donc? Quelqu'un me disait, ils ont vendu 20 millions de casques Oculus Quest. Meta Quest, en tout cas, peu importe. Puis, ouais. Dans le monde, je pense que c'est plus que le nombre de consoles Xbox qui y a en circulation ou qui sont utilisées en ce moment.
OK.
Fait que, tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est un petit marché, mais... En même temps, c'est plus que le marché des consoles de jeux vidéo,
mm-hmm.
potentiel. Ça ne veut pas dire que 20 millions de personnes les utilisent tous les jours, mais il y a eu quand même un intérêt à un moment donné qui fait que ça en est vendu 20 millions. Donc, ouais, il y a un public.
Puis le marché du jeu vidéo, ça vaut plus que le marché d'Hollywood.
Ben oui, c'est gros. C'est certainement très, très gros.
Fait que les jeux et tout ça, ça
mais vaut. Les gens qui jouent, tu vois rarement des gens qui jouent massivement avec un Quest d'en face. Là.
Ouais.
Et je ne sais pas à quel point c'est aussi... c'est aussi durable comme succès, disons ça comme ça. C'est peut-être éphémère, je ne sais pas. Tu sais, comme la télé 3D, là.
Mm-hmm.
À un moment donné, tout le monde s'est mis à vendre des télés 3D. Ça a duré 2 ans. Puis après ça, on n'en parlait plus bien. C'est peut-être la même chose.
Oh, wow, c'est que ça merde.
On ne sait pas. Mais tu sais, c'est ça. Apple, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'Apple est là pour plusieurs années avec au moins deux autres, trois casques là, qui pourraient être mis en marché.
OK. Puis moi, je ne savais pas qu'ils se lançaient dans ce domaine-là. Tu sais, le Meta et tout ça.
Ben, ça faisait longtemps que les rumeurs étaient là que Apple se lançait là-dedans.
Mm-hmm. Mais il n'y avait rien sorti.
Mais c'est la première fois qu'ils le font officiellement.
OK.
Puis. De là, évidemment, de là d'assurer le succès de ça, c'est une autre conversation. Quand ils l'ont présenté, ils ont dit, pour nous, c'est le nouveau Macintosh. Là. Et à l'époque, le Macintosh, ça a quand même été un gros succès. Ben, évidemment, ça a lancé Apple. Donc, est-ce que c'est la prochaine grande vague?
Mm-hmm.
Ça aurait été intéressant de suivre ça. Parce que si ça marche pas, c'est sûr que le patron d'Apple passe à job. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Ah ouais?
Ouais. On verra la suite. Là.
Puis aussi que ça s'en va, le métavers de... Ouais. De Meta.
Je sais pas, ouais, ça s'en va, tu penses, moi j'ai aucune idée. Ça reste du jeu pour l'instant, je pense pas que ça s'en va nulle part.
Parce que c'est ça, le but de Facebook, c'est tellement amené, ils ont quasiment tout délaissé pour pouvoir se concentrer sur Metaverse, là, t'sais, de créer un monde infini là, avec tout est numérique, digital. Puis là, j'ai appris ça en lisant ton article, c'est que un moment donné, Zuckerberg. Pour faire plaisir à ses investisseurs, il a tout lâché puis il a renvoyé du monde.
Ben oui, ben il y a bien du monde qui n'était pas d'accord avec ce move-là quand ils sont renommés Meta. Quand il est sorti avec le métavers, en fait, il y a trois affaires. Métavers, il a poussé fort là-dessus pour qu'on identifie la réalité virtuelle à Meta, comme on dit Kleenex pour dire mouchoir. C'est une façon de vraiment mettre le grappin sur la technologie en disant quand tu penses à ça, tu penses à nous. C'est la première affaire.
Se l'approprier.
Exactement. Là. Alors que c'est tout le monde. D'autres peuvent faire la réalité virtuelle, en fait.
Mm-hmm.
Ensuite, quand il a lancé ça, quand il a renommé Facebook, quand il est passé avec ce gros pitch-là, ça arrivait à un moment donné où Facebook était vraiment... tu sais, les gouvernements américains, les gouvernements d'Europe étaient après Facebook pour plein de raisons sur...
Le journalisme.
La question de la gestion des contenus numériques. Il y avait,
les données.
Il y avait un restant de Cambridge Analytica, là, qui avait été pris avec... La manipulation publicitaire, tout ça.
Ouais, l'influence dans les... l'ingérence dans les élections américaines.
Ouais, fausse nouvelle, tout le kit. Fait qu'il sentait qu'il avait besoin de changer le discours, tu sais, de vraiment... Puis clairement, il a réussi parce qu'après ça, il s'est mis à parler que de métavers.
Ouais.
Il a quand même annoncé qu'il allait investir plusieurs dizaines de milliards de dollars au fil des 10 prochaines années là-dedans. Fait que ça, il y a bien du monde qui a trouvé ça pas super brillant parce qu'ils trouvaient pas que ça allait avoir un succès commercial évident.
Ou ça, ben c'était vraiment sur le long terme.
C'est un gros risque, mais c'était quand même juste une fraction des revenus. Tu sais, ils ont pas mis toute l'avenir de la compagnie sur la table en disant c'est ça ou c'est rien. Ils ont vraiment pris une partie des. Parce qu'ils font vraiment beaucoup d'argent, Facebook. Mais il y a comme tellement insisté là-dessus que ça a peut-être tanné des gens qui étaient plus des investisseurs traditionnels qui voulaient juste la business continue comme elle allait déjà.
Conservateur.
Puis là, en voyant comment l'intelligence artificielle a vraiment explosé depuis l'automne dernier, en voyant que la valeur de Facebook a beaucoup baissé en bourse, il a dû probablement dire je vais changer ma stratégie puis on va parler plus d'intelligence artificielle parce que clairement, c'est là où en ce moment, il y a des gains faciles à faire.
Mm-hmm.
Puis ça fait plaisir à bien du monde qui ont des actions de Facebook parce que le titre a popé beaucoup depuis le début de l'année. Puis là, ils parlent beaucoup moins de métavers. Ils ont quand même lancé un nouveau casque il y a même pas un mois. Là, fait que ça veut pas dire que c'est mort.
Ouais.
Ça veut pas dire que c'est fini, mais l'espèce de mouvement de tout au métavers, là, c'est clairement plus ça qui se passe en ce moment.
Puis, maintenant, est-ce qu'ils ont quand même réussi un petit peu à créer leur univers digital puis tu peux être promené là-dedans ou pas encore, pas en tout?
Ben, c'est pas un univers, mais c'est un paquet d'applications.
Ouais.
C'est un peu pêle-mêle, c'est un peu mal. Il y a beaucoup de bugs. c'est pas 100% bien ficelé. On l'a vu, puis ça a fait rigoler bien les gens, mais quand t'es dans l'environnement avec ton casque, puis tu te représentes toi-même, t'es un petit bonhomme qui est coupé au nombril, là, t'as pas de jambes.
Ok.
Ça fait rire bien du monde. Fait que tu sais, il y a des éléments comme ça qui sont. C'est un petit peu maladroit, disons ça comme ça. Fait que c'est pas tout le monde qui embarque, t'sais, juste ce titre. Fait que ça donne ce que ça donne. Puis ça rend la chose très. Ça enlève du sérieux. Fait que c'est pour ça que c'est plus. On a l'impression que c'est plus pour les enfants ou pour les joueurs. Ou t'sais, c'est pas. Tu vois personne s'asseoir au bureau, mettre ça, puis commencer à aller travailler dans un environnement virtuel. C'est pas comme, mettons, Apple essaie de le pousser ou comme même Microsoft l'a fait.
Ok. Ben, c'est ça. Parce que c'est pas la première fois qu'on en parle de ça, là, de créer un univers virtuel.
Non, ben...
Ça a déjà été...
En fait, tu sais, tu sais, la réalité virtuelle, tout ça, c'est une autre façon de parler d'environnement numérique, immersif, dans le sens que tu embarques dedans à fond. Tu sais, Fortnite, c'est un environnement numérique immersif. Minecraft, à l'époque, Second Life, là, quand, je pense, en 2009, quelque chose de même, où tu allais... Puis en 2000, quand Second Life a vu le jour, c'est une application pour PC, c'était vraiment comme weird, c'était pas, tu sais, de la très grande qualité. Mais tu te promenais dans une espèce d'un environnement ouvert, tu pouvais construire des affaires, sauter un peu partout, puis à l'époque, je me rappelle, TELUS avait embarqué en se disant « On croit à ça, on va ouvrir une boutique, faire du service à la clientèle dans cet environnement-là de Second Life. » On appelait pas ça de la réalité virtuelle, mais c'était vraiment un environnement numérique immersif, puis ça fait au-dessus de 15 ans, là, fait que c'est...
Ça date pas d'aujourd'hui.
Non, ça fait des années, puis j'en parlais l'autre jour de voir, puis on disait, tu sais, les premières manifestations, c'était les années même 60-70. À l'époque, la technologie n'était pas aussi sophistiquée qu'aujourd'hui, mais tu sais, le film Tron des années 80, où, tu sais, il faisait de la moto en 2D, là, c'était un peu bizarre, ben, c'était dans la culture populaire un exemple de réalité virtuelle, dans le fond,
de monde immersif. De la réalité virtuelle.
Évidemment, c'est de la fiction,
ouais.
Mais ça a placé un peu le contexte pour dire, ben, y a, ça fait rêver vers... Ça pousse les gens à penser à ce que ça pourrait être.
Maintenant, tu sais, à un moment donné, ils vont finir par le réussir.
Écoute, ben là, ils poussent fort. Tu sais, il y a des grosses compagnies.
Y a-t-il une compétition, justement, entre les grosses compagnies de créer vraiment l'univers? Ou... Parce que c'est le premier qui va le créer, c'est celle-là, parce que moi, tout le monde va embarquer.
J'étais trop jeune pour vivre à fond le Mac versus PC au début des années 80 puis tout ça. Il y a eu à un moment donné une guerre, c'est le seul parallèle que je peux faire dans le numérique, c'est quand il y avait la console Nintendo puis la console Sega.
Ah ouais!
Puis c'était une grosse affaire parce que c'était un ou l'autre, là, tu sais, t'es comme, c'était vraiment... Puis éventuellement, Sega a disparu.
Eh oui.
Puis là, tu dis, c'était peut-être un peu la même chose qui se passe en ce moment. Il y a peut-être une espèce de. Il y a peut-être un marché qui est trop. On ne sait pas c'est quoi la taille du marché. Il est peut-être gros pour tout le monde, puis tout le monde va être bien content. Il est peut-être justement pas très grand, puis il va falloir qu'un joueur ou deux joueurs disparaissent, ou je ne sais pas. Mais en ce moment, on sent aussi que chaque grand joueur se spécialise un peu. T'sais, Microsoft sont clairement dans leur truc. On ne peut pas dire que le HoloLens fait bien de l'argent. Mais Apple s'en va ailleurs, puis Meta sont déjà dans leur truc. Fait que c'est. Ça va être... C'est dur de dire où est-ce que ça s'en va parce qu'on n'en a aucune espèce d'idée, mais j'ai hâte de voir dans 10 ans, rétrospectivement, comment on va voir, comment ça va avoir évolué, puis si justement ça va avoir été un bon pari.
Si on parle plus de technologie, mais au sein du gouvernement, il y a eu, je sais pas si tu as suivi le dossier, j'imagine...
Comment ça me fait peur, là?
J'imagine un peu plus, oui, mais la SAC, clic, là,
oh oui.
C'était ce petit fiasco, là. C'est quoi, comment que ça... Tu peux-tu raconter c'est quoi puis pourquoi que ça a foiré cette affaire-là?
Ben, j'ai manqué depuis le début parce que j'étais à l'extérieur quand ils ont fait le lancement.
OK.
Ce que je comprends, c'est qu'ils ont lancé un site web trop vite parce que tout le monde s'est garoché. Je me rappelle qu'avant qu'ils lancent, quand tu appelais à la SAC, ils disaient attendez, notre site web s'en vient, vous allez tout pouvoir faire à ce moment-là. Fait qu'ils ont vraiment comme créé une demande vraiment énorme pour un site web qui n'était pas prêt à accepter toute cette demande-là, ce qui est un peu niaiseux. Puis ils ont pensé que tout le monde, du jour au lendemain, allait se précipiter sur le site web et abandonner les comptoirs. Fait qu'ils ont laissé les comptoirs, tu sais, avec très peu de staff, dans le fond. Alors qu'ils auraient juste dû, tu sais, faire une transition tranquillement. Ils ont, du jour au lendemain, décidé tout s'en va sur le site web. Fait que là, il a été pris dans ce bordel-là.
Fait que c'est ça qui était arrivé, tabarnak.
Il y a eu des glitches. Mais tu vois, quand ça
un
marchait...
Un glitch, c'est quoi? C'est des problèmes?
Ben, il y avait entre autres choses que pour s'inscrire, il fallait que tu crées un compte... Une identité numérique, ben pas une identité numérique pleine, là, mais tu sais, un compte qui certifiait, qui authentifiait que tu étais la bonne personne. Fait que tu te demandais, je pense, ton numéro d'assurance sociale ou ton relevé, ton le montant d'impôt que tu as payé ou le salaire que tu as fait l'année dernière selon Revenu Québec. Ou des données personnelles qu'il n'y a pas grand monde qui a ça sous la main sur le fly. Là, fait que c'était comme bien du monde, à tout d'un coup, avait pas ça, pouvait pas s'identifier, pouvait pas payer pour le renouvellement de plaque. Ou... Ça a comme été un peu mal géré au niveau de la transition vers ça.
OK.
Ça a fait chier bien du monde qui sont allés au comptoir, mais comme le comptoir, il n'y avait pas plus de staff, ben ça a créé du refoulement. Fait que ça. Il fallait prendre des rendez-vous des semaines d'avance pour un examen de conduite ou n'importe quoi. Alors qu'avant, c'était comme vraiment facile. Tu rentrais
ben ouais,
dans
j'ai
l'heure.
J'ai jamais eu de problème à sac, moi. C'est pour ça que j'étais comme, c'est quoi le style de merde? Ouais. Pourquoi ils n'ont pas juste resté avec...
Ben, ils ont mal. Puis l'affaire, c'est que là où ça s'est compliqué pour le gouvernement, puis que c'est comme, c'est là où, malheureusement, on a comme un peu perdu le fil de cette conversation-là, mais créer une identité pour la SAC, dans le processus, t'as écrit plein de fois que c'était géré par le ministère de la cybersécurité et du numérique du Québec, dont le ministre Éric Kerr.
Ouais.
Et lui, le premier jour que ça a été, que ça a planté, il a dit « Moi, ça va rien, c'est pas mes affaires, je m'en mêle pas. » Mais, tu sais, son nom était là. Fait que c'est sûr que si ça avait été un succès, il aurait comme pris tout le crédit. « Ah, regardez comme ce que j'ai fait a bien fonctionné. Mm-hmm. » Puis là, c'est le contrat qui s'est produit. Puis il fait « Non, non, c'est pas ma faute. » Alors qu'à un moment donné, il aurait fallu qu'il assume puis que tout de suite, il agisse.
Ouais.
Il a fallu que ce soit quasiment sa bosse. Mais Geneviève Guilbeault, qui est la vice-première ministre, qui, elle, arrive fasse « Bon, ben là, regarde, on a un problème, on va le corriger, voici ce qu'on va faire, ainsi de suite. »
Parce qu'elle est ministre du transport. Là,
ouais, ben ça, c'est ça, ça l'affecte aussi de cette façon-là, mais c'est aussi...
Il y a deux ministères responsables de ce fiasco-là.
Puis la SAC, ouais, ça répond pas à cybersécurité, mais c'est quand même un outil numérique qui se voulait aussi peut-être un premier test vers ce que le gouvernement veut faire éventuellement.
Le
c'est-à-dire
portefeuille numérique.
Le fameux, ouais, exactement, où à partir duquel tu vas pouvoir aller sur Revenu Québec ou peu importe, chercher des documents fiscaux puis tout le reste.
Hey, ça me fait peur, man.
C'est pas super bien parti.
Hey, man, ça, là, ça me fout la chienne. Surtout, moi, le premier article que j'ai lu là-dessus, je l'avais lu en retard, Steve. Fait que, genre, je sais pas, ça faisait un an qu'il était sorti, puis j'avais tombé dessus. C'était, puis là, il parlait de le futur de ça. Dans le fond, qu'est-ce qu'eux autres aimeraient que ça soit, le gouvernement. Puis c'est ça, une transition vers un portefeuille numérique où tu aurais tous les documents nécessaires là-dedans, ainsi que les cartes de crédit, les... Puis là, première affaire que moi, j'aime pas, c'est Chris, je veux pas perdre l'argent comptant.
Ça,
man, ça me fait peur. Puis je pense que ça va être la première affaire qu'ils veulent enlever de là. Là
c'est le... Ben, tu sais, il y avait des gens qui croient au monnaie numérique, tu sais, le Bitcoin, ces affaires-là, parce que ça va être pour le numérique l'équivalent de l'argent papier. Parce que l'argent papier, c'est pas traçable. Puis non, il y a le fait aussi, puis ça circule sur les réseaux sociaux, c'est partagé beaucoup, le fait que, tu sais, tu payes 50$ avec un billet de 50$. Ça va rester un billet de 50$ toute sa vie. Fait que ça va toujours avoir une valeur de 50$.
Mm-hmm.
Si tu payes une affaire à 50$ avec ta carte de crédit, ben, y a une fraction d'un pour cent qui s'en va à Mastercard, il y a une fraction d'un pour cent qui s'en va là. T'sais. Ton 50$, au fil des transactions, il vaut toujours moins d'argent. Fait que l'argent papier a au moins cette valeur-là.
Ouais.
C'est anonyme. Tu peux acheter quelque chose, t'en aller, puis personne ne va vraiment savoir qu'est-ce que tu as acheté et t'es qui. Alors que le numérique, ben, tu as toujours la trace parce que tu as le relevé, tu as le reçu, puis tu as un paquet d'affaires.
Mm-hmm.
Fait qu'il y a plein d'enjeux liés à ça qui sont importants, en fait.
Ouais.
Et auxquels ne répond pas cette notion d'identité numérique pour l'instant.
Parce que là, tu sais, à seconde qu'ils réussissent à enlever le cash, ben là, ils ont un plein contrôle. Tu sais, exemple, juste mettons, Revenu Québec, là, d'un fois, là, eux autres, si tu leur dois la moindre scène, ils vont te geler ton compte, ça prendra pas de temps. Tu sais que peut-être dans des situations, c'est bon, là, mais moi, j'aime pas. Ça me fout la chienne, ça. Puis si tu me demandes de truster le gouvernement, c'est un gros zéro pour moi, là. Fuck out, j'embarque pas là-dedans. Je suis pas conspirationniste, mais je me considère comme... beaucoup plus libertarien, on peut dire. Okay. Là, t'sais. Fait que moi, des fois, c'est ça, le moins que le gouvernement peut en faire partie, le plus je suis heureux.
Ben, ça, c'est un bon point, parce que ce qui serait peut-être plus urgent de faire avant de créer l'identité numérique, c'est de rebâtir la confiance sur les services gouvernementaux, t'sais, même que ce soit en ligne ou peu importe, pour justement, tu sais, faire son rapport d'impôt, c'est pire qu'à apprendre le chinois, là.
Mais ouais.
C'est compliqué en tabarnouche, là.
Hey. Puis ça, c'est quand que tu leur dois pas de quoi, là. Tu sais, quand tout va bien, ça reste juste compliqué. Mais là, quand il y a de quoi qui se va pas bien,
peut-être là. Simplifier, tu sais, travailler sur des solutions concrètes pour simplifier ce genre de choses-là. Tu sais, on a encore des fax puis des pagettes dans le secteur de la santé. Tu sais, peut-être s'attaquer à ça en premier.
Mais ouais.
Puis là, bâtir la confiance, puis à partir de là, dire, bon, mais peut-être qu'à partir de là, on peut créer des outils numériques plus sophistiqués, mais. Ouais, attaquer la question de. Parce qu'il y a bien du monde qui se méfie du gouvernement à juste titre. Parce qu'il y a des cas d'abus ou d'erreurs ou peu importe.
Ou de la fraude, tu sais. Comme ma tante, là, t'sais, tu parles de rentrer le numéro d'assurance sociale. Une chance qu'ils ont rajouté l'affaire de mettre le dernier montant que tu as fait l'année dernière ou quoi de même. Parce que là, avec la fraude de Desjardins.
Il y a des gens qui ont des informations.
Il y en a, hein. C'est sûr, ben qu'ils l'ont peut-être la mienne. Puis moi, c'est clair, j'embarquerai jamais dans leur affaire d'identité ou de portefeuille. En tout cas, ils m'ont topé plus longtemps que je peux, comme avec le vaccin. Fait que là, c'est sûr et certain, moi, j'embarquerai pas là-dedans, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va m'en créer une pour moi, puis ça sera pas
moi qui va l'utiliser. Ben,
ouais. C'est ça.
Ouais, absolument.
Puis genre, ça va être lui qui va être le vrai Jerry Allen et non moi, là.
Ça, c'est un problème, mais tu vois, en ce moment, je veux dire, c'est légitime de vouloir remplacer l'outil d'identification actuel sur les sites gouvernementaux parce que ça utilise, ça s'appelle ClickSecure, puis je pense qu'une façon de s'identifier, c'est à travers ton compte bancaire. Fait que tu passes par ta banque. Ah, ben là, ouais. C'est comme tout d'un coup, ta banque détient ton identité. Ça, c'est un... c'est pas idéal non plus.
T'sais. Ben, c'est ça.
Fait qu'il faut trouver une solution à travers ça qui serait peut-être plus... plus indépendante, mettons, des banques. Là.
Moi, le pire, c'est que c'est mon comptable qui a accès.
C'est
moi qui... c'est à mon nom, mais c'est tout lui qui fait les affaires là-dedans. C'est lui qui gère ça. J'ai jamais rentré là-dedans. Mais ouais, c'est ça, il dit que ça va bien. Là, fait que...
Ben, puis probablement qu'il a accès parce que le gouvernement a tous tes relevés numériques. Tu sais, ton T4, tout ça, ils ont, puis tu peux y accéder à travers ces services-là. Et là, ça soulève votre question. S'ils ont tout accès à ces informations-là, pourquoi il faut faire le rapport d'impôt encore aujourd'hui?
Ben...
c'est plus au niveau comptable et fiscal, là, mais...
Ouais.
Au moins, j'imagine qu'à un moment donné, ça va se régler puis qu'on va avoir accès à tous ces trucs-là, à toutes ces affaires-là de façon numérique. Puis espérons que ça va être pour rendre les choses plus simples. Et non pas pour les rendre plus compliquées parce que c'est déjà assez compliqué de même.
Moi, man, je veux juste, comme plus tard, là, le plus rapidement possible, m'acheter une maison dans le bois, là, puis qu'on me calisse la paix. Ah. M'aller m'acheter... Startlink, là. Comme ça, je vais aller faire ma part confiance au gars qui veut pas rendre de compte à personne.
Ben, tu vas quand même falloir que tu payes des impôts puis des services, parce que des services municipaux et ça.
Oui,
c'est
oui,
sûr que dès qu'on est dans la machine, tu mets le dos dans la machine, là, l'engrenage, il t'embarque. Là, tu t'en
ouais, c'est ça. Je pense pas mal ça, là. Tu sais, on a pas mal que de parler de qu'est-ce que ça me tentait de parler.
Okay.
Ben, on a ça, on pourrait y aller aussi avec le Dark Web.
OK.
Parce que, mais en même temps, je sais pas tant qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça. Moi, je connais pas ça. Ça on dirait hey, juste le nom, ça me fout la chienne. Là, le Dark Web, dans le fond, c'est quoi?
Ben, c'est des forums, c'est des endroits, c'est des sites, c'est des endroits où tu vas, où en fait, des gens qui ont des affaires pas super legit à faire vont pour s'échanger des informations ou du contenu ou plein d'affaires. Pendant un bout de temps, je pense que tu vas t'acheter de la drogue là, aussi, des affaires de même. Peut-être encore aujourd'hui, là. Je suis pas un visiteur fréquent du Dark Web, moi non plus, là, j'aurais jamais vraiment allé depuis je sais pas combien de temps. Mais c'est comme un marché noir, dans le fond, de plein d'affaires.
OK. Puis c'est comment ça fonctionne? C'est pas l'Internet ou c'est...
Ben, ça fait partie de l'Internet. Ça fait partie que tu passes par les réseaux. Comment ça fonctionne? Il faudrait demander à un utilisateur fréquent. J'imagine que tu te connectes à travers un serveur sous quelle forme, je sais pas. C'est web, je sais pas. Mais si j'avais inventé ça, probablement que je créerais un forum qui est pas web, là, qui est genre juste un forum texte comme dans le temps. Là.
OK.
Ça, c'est toujours l'affaire avec Internet. C'est que tu sais, ça a été créé puis ça a été utilisé par des gens qui voulaient... moi, quand j'étais au cégep à l'université, l'Internet, c'était juste du texte. Il y avait pas, c'était pas le web multimédia qu'on a actuellement, puis c'était tout anonyme. Puis c'était tout des alias, puis des noms weird, tout ça. Puis c'était un gros... c'est une grosse partie de la culture Internet de cette époque-là. Puis le Dark Web a beaucoup de mauvais, mais il y a quand même encore une partie de cet héritage-là qui fait partie, dans le fond, de l'Internet.
Ouais.
Fait que ça, c'est un autre problème, parce qu'on veut toujours... Puis c'est le problème avec les réseaux sociaux, c'est que... Il y a eu souvent cette courant de pensée que si tout le monde est. Si on enlève l'anonymat de l'Internet ou des réseaux sociaux, tout d'un coup, tout le monde va commencer à se comporter de façon plus gentille.
Mm-hmm. Pour pas avoir de représailles.
Ouais. Là, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas super vrai, parce que sur Facebook, bien des gens disent des bêtises, puis ils se rendent compte juste trop tard qu'on peut les identifier, puis ils perdent leur job, puis là, ils se comprennent plus pourquoi, puis tout ça. Puis ça, c'est comme.
Ouais.
Fallait y penser
avant. Mais là, voyons, j'ai rien qui souhaitait à mort à quelqu'un. Là.
Juste ça, tu sais. C'est banal, c'est trivial en 2023. mais c'est ça, mais tu sais, ça vient avec le bagage, dans le fond, d'Internet. Fait que c'est sûr qu'il y a ce courant-là aussi. Puis il y a tout le reste, il y a tout le phénomène du piratage, tout le kit.
Mais c'est vrai qu'il y en a qui s'en servent pour faire le bien en guillemets, tu sais, comme les héros de l'Internet, tu sais, comme Anonymous.
Ouais, il y a des pirates qui, c'est ça, comme, je pense d'ailleurs, encore une fois, en Ukraine, là, il y a eu des gens qui ont décidé d'attaquer des cibles russes, des choses comme ça, en représailles, et ainsi de suite. Fait qu'il y a des Black Hat, là, des pirates aux bonnes intentions, effectivement.
Ouais.
Il y a toutes sortes de monde hein, dans l'Internet, incluant dans le Dark Web, il n'y a pas de doute.
Parce que c'est ça aussi, ça me fait penser à Wikileaks. Il y a eu ça que lui, dans le fond, il a réussi à avoir des documents, des messages ou des vidéos pour qui incriminent justement le gouvernement des États-Unis. Ouais. Puis il y en a bien qui le voient comme étant un héros. Puis il y en a d'autres qui, ben, surtout la CIA, le perçoit totalement.
Le gouvernement américain ne veut rien savoir.
Ouais, c'est ça, là, tu sais.
Il pousse sur ses alliés pour agir de la même façon.
Ouais, qui est en fond un peu, qui se retrouvait être un peu le même problème que Edward Snowden, tu sais, là. Il y en a qui le voient comme étant un whistleblower, là, un lanceur d'alerte, puis d'autres comme,
ouais,
comme un traître à la nation.
Ouais, ben c'est souvent des trucs comme ça, très polarisant. Je ne suis pas un fin connaisseur des intrigues, tu sais, des détails politiques de tout ça, là, mais il va toujours avoir cette part-là de, appelons ça le côté obscur d'Internet, là, qui va exister, qui est légitime ou pas. Là. Dans ce cas-ci, il y a beaucoup d'illégitimes qui se fait là aussi. Là.
Mm-hmm.
Mais ça vient avec le réseau Internet.
Ouais. Hey, Alain McKenna, thank you, mon gars, man.
C'est
très apprécié. Avant qu'on se lève, j'aimerais ça rappeler à tout le monde que ça, s'ils veulent te suivre, t'écris au journal Le Devoir.
Oui.
T'as aussi un podcast.
Oui, ben, je fais une balado techno qui s'appelle Une Tasse de Tech. Okay. On fait des vidéos un peu comme tu fais ici, où on les dépose sur YouTube aussi. Fait que ça se trouve là. Mais c'est une balado audio à la base qu'on met sur les plateformes, comme tout le monde, dans le fond.
OK.
Qui est plus de la techno. Je dis toujours que c'est la techno décomplexée, parce que comme c'est entre nous autres, d'une certaine façon, on se casse pas la tête à expliquer c'est quoi du Wi-Fi, parce qu'on prend pour acquis que tout le monde le sait.
Hein, ouais, ben 2023, c'est ça. Là. C'est un public un peu plus niché.
Ouais, fait qu'on peut aller un peu plus loin dans la conversation, puis ouais, on a bien du fun avec ça. On parle de techno, mais on s'en super large, là, comme je vais parler avec des gens qui vendent des paddleboards la semaine prochaine.
OK.
Il y a un élément de techno là-dedans, là, mais ça va assez large quand même. Là,
ah, très cool, man. Puis c'est ça, si on veut trouver ça, c'est sur YouTube.
Ouais.
Ou sinon...
Ben, c'est Une Tasse de Tech, donc ça, c'est la même chose. On est sur Facebook, YouTube, les plateformes balado. On est partenaire avec Cogeco qui nous distribue, fait que ça se trouve sur le site du 98.5 aussi.
Ah, parfait, ça.
Puis c'est... écoute, ça fait 8 ans qu'on fait ça, là. Fait qu'on a du bagage en masse, c'est des archives, c'est belle fun.
Parfait. Mais encore une fois, un gros merci, puis merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde! It's the What's Up Podcast! What's Up Podcast! What's Up Podcast! Avec Jeremy Allen! Yeah! Pou, 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 pou!